Bonjour tout le monde, ici Eugénie Francoeur, ex-journaliste, directrice générale d'une petite fondation et curieuse de tout ce qui parle et réfléchit sur la santé, les façons de mieux vivre dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Je vous souhaite la bienvenue sur la balado « Ma santé pour la vie ». Je vous propose des rencontres intimes, surprenantes et éclairantes avec des personnes qui pensent la santé autrement. Ce que je souhaite à travers cette balado, c'est de vous partager ce qui m'allume en espérant que ça puisse aussi vous faire du bien à vous ou peut-être à un proche. Je crois profondément qu'il est possible de vieillir en restant actif et alerte. J'espère que ma croyance et mon enthousiasme se rendront jusqu'à vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter et à vous laisser surprendre. Allô tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Ma santé pour la vie ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du deuil au temps de la COVID-19. Et pourquoi je vous parle de la mort aujourd'hui? Mais parce que ça me touchait directement. Je viens de perdre mon papa. Le 24 mars dernier, en pleine pandémie du coronavirus, il est décédé des suites d'un anévrisme brutal. Deux de mes frères et moi, désinfectés et protégés, avons obtenu une permission spéciale de l'hôpital et nous avons pu accompagner notre père vers son dernier souffle. Malheureusement, tous n'auront pas cette chance car depuis, les contrôles sont plus stricts. Je pense aux centaines de personnes qui décèdent seules à l'hôpital et aux proches de ces mourants qui ne peuvent pas faire leur dernier adieu. Comment est-ce qu'on fait son deuil quand on est privé physiquement de la présence de l'autre? Comment se sentent les mourants dans les hôpitaux loin des leurs? Comment collectivement nous sommes amputés de plusieurs rituels qui entourent la mort car les rassemblements publics sont interdits? C'est rare qu'on entende aussi souvent parler de la mort. Notre premier ministre François Legault et ses acolytes en parlent tous les jours. Et c'est la même chose, le même scénario, un peu partout autour du monde. Notre confinement imposé, qu'il soit individuel ou collectif, ou les deux, ne peut que nous rappeler plusieurs fois par jour que nous risquons la mort si on sort, si on ne fait pas attention. On craint le coronavirus comme nos ancêtres ont dû être effrayés par la peste. Pour en discuter, j'ai au bout du fil, pandémie oblige, Luce Desaulniers. Luce est anthropologue, professeur émérite associé au département de communication sociale et publique de l'UQAM, autrice de nombreux ouvrages sur la mort et fondatrice des études supérieures interdisciplinaires sur la mort. Bonjour Luce et merci d'avoir accepté mon invitation.
Ça me fait plaisir, Eugénie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
J'ai tellement de questions à vous poser. La première qui me vient en tête, c'est la personne qui meurt toute seule à l'hôpital, loin des siens, pour cet homme ou cette femme-là, ça veut dire quoi mourir seule à l'hôpital?
Ça peut vouloir dire bien des choses. Tout dépend de comment les gens conçoivent la mort bien avant, mais si on se fie à une image globale qui est la nôtre actuellement, mais qui renvoie aussi à une image universelle de mauvaise mort, mourir seul, sans recours, c'est la pire des morts. Ça se trouve à être sans recours autant au plan humain, avec quelqu'un qui soit avec nous, même si on meurt seul, puis sans recours thérapeutique ou sans recours technique comme tel. Ce qui peut être le cas pour beaucoup de nos collatéraux actuellement. Mais enfin, une chose qui est sûre, c'est qu'ils sont sans recours de leurs très proches. Donc, ça renvoie à la figure de mort qui est la plus, où l'impuissance est la plus prépondérante. Et ça dépend, je pense, beaucoup comment les gens ont vu venir leur mort, s'ils ont vu venir leur mort avec terreur et s'il y a eu auprès d'eux actuellement un intervenant qui soit capable de les rassurer un peu, mais surtout de leur dire que lui, comme intervenant, il est le relais de leurs proches. Ça, c'est fondamental. Donc, il faut que les proches, ne sachant pas et ne pouvant pas se rendre, ils pourraient toujours délinquer, mais moi, j'aurais tendance à faire ça, mais bon, c'est une autre chose. Parce que Ça me fait penser, c'est toujours l'histoire d'Antigone, hein? Elle a été délinquante parce que Créon voulait pas que son frère soit enterré. Et elle, elle a délinqué parce que ce qu'il y a comme dans cette résistance-là à une forme de réglementation hygiéniste qui est tout à fait légitime, c'est la force du lien filial, dans votre cas, c'est la force de cette assurance-là qu'on peut donner à l'autre, qu'on va l'aimer toujours. Ça, c'est quelque chose d'irréfragable dans la conscience humaine. On veut jusqu'à la fin tenter, si on veut, non pas tant d'empêcher l'autre de mourir, parce que ça fait évidemment partie de nos fantasmes de toute puissance, mais il vient un temps où, quand on chemine l'un avec l'autre, on se dit, je l'empêcherai peut-être pas de mourir, mais au moins, il va mourir dans les meilleures conditions possibles. Et donc, c'est très dur pour ceux qui restent, qui n'ont pas pu accompagner leurs proches, parce qu'ils s'imaginent, et à raison, comment leurs proches avaient envie de les voir. Et avait envie, peut-être, c'est comme pour vous un parent, comme tout parent, on a envie de montrer à nos enfants un peu comment ça se fait, comment on peut faire. Donc, sans que ce soit quelque chose de très explicite, voici mon enfant, je vais te dire comment mourir. Mais ça, c'est extrêmement important et c'est surtout très consolant pour les proches. C'est une source de consolation que l'on n'a pas. Et donc, il faut qu'on se rabatte sur une sorte d'imaginaire, certainement, mais aussi sur la qualité des liens qui ont prévalu avant.
Vous parlez de ceux qui restent, des vivants qui sont encore là. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas dire au revoir, c'est quoi les séquelles qui restent d'un deuil non fait?
Je vais vous dire, les séquelles, elles sont de l'ordre d'un sentiment de culpabilité qui est dans beaucoup de situations de sentiment de culpabilité. Il n'y a pas de rationnel autour de ça, mais là, il y a comme une rage à cause des circonstances, une colère que tu vis plus ou moins dépendamment des circonstances de la mort de l'autre, mais là, il y a une sacrée colère qui peut s'exprimer contre le COVID. Et ça, je pense que c'est très, très important que les gens en deuil aient ce lieu-là pour l'exprimer. Comment ça va entraver ou non le processus de deuil? Moi, je prends ça avec énormément de précaution. Parce que je pense que actuellement, la tendance, c'est à rendre encore plus pénible une situation qui est déjà terrible, qui est déjà très dure. Et donc, en mésestimant le fait que dans les circonstances, il y a des phénomènes nouveaux que l'on rencontre qui n'étaient pas vraiment, je dirais, le cas dans un deuil régulier. Par exemple, le fait que l'on vive à cause de cette peur de la mort et à cause de cette protection que nous avons, que nous devons tenir les uns par rapport aux autres, donc dans le confinement, dans le retrait, dans la distanciation, il y a collectivement une sorte de rythme qui s'est installé, parce que pour tout le monde, qui qu'on soit, la mort introduit un changement de rythme. On dit toujours, comme disait Shakespeare, le temps sort de ses gonds, dans le sens où on se sent complètement désorganisé, on a l'impression de passer dans une trappe. Il y a beaucoup de façon existentielle, mais de façon organisationnelle, il y a tellement de choses à faire. On est bousculé, on vit dans un monde à part. Or, on vit ça proprement dans tout deuil quand on était très attaché à la personne qui est décédée. Mais dans ce cas-ci, il y a comme une analogie de ce type de rapport au temps que l'on a soi-même quand on vit un deuil, mais cette analogie-là, elle est vécue collectivement. Tout le monde vit dans un temps suspendu. Les gens sont étonnés de leur nouveau rapport au temps, ils sont désorganisés parce que leur quotidien l'est, et surtout, ils ne peuvent pas prévoir. Donc, les gens en deuil, dans les circonstances actuelles, peuvent trouver une sorte de synchronie rythmique avec l'ensemble, les autres, et les autres qui aussi peuvent peut-être avoir un peu plus de temps à leur accorder, un peu plus d'espace, un peu plus d'écoute. Et donc, je dis pas que ça compense ou que ça répare le chagrin et la colère qu'on a du fait que nos proches sont morts dans des conditions parfois ignobles, mais ça atténue un petit peu. Donc, on sait pas qu'est-ce que ça va faire comme deuil. J'aurais pas une perspective très linéaire pour dire, ça va, pour pathologiser le deuil, contrairement à pas mal de monde. J'aurais pas cette tendance.
Okay.
Je ne vais pas être jojo non plus, là. mais bon.
D'accord. Une des choses que j'ai trouvées le plus difficile, et mes frères aussi, lorsque nous étions au chevet de mon père, c'est de ne pas pouvoir se toucher. Tu sais, mettons, quand on perd quelqu'un, on a envie de se faire des gros câlins, on a besoin de ce réconfort-là, et là, on peut pas le faire. Pourquoi est-ce que c'est si important de se toucher puis ce rapport au corps?
Ben, on est des êtres profondément somatiques. On est des êtres par lesquels l'expression, c'est loin d'être seulement les mots. Ce sont les gestes, les moments partagés, les conduites corporelles qu'on a les uns avec les autres qui sont extrêmement parlants. C'est sûr que ce manque-là, moi, je pense qu'à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est de serrer les uns les autres pour ceux qui peuvent se serrer ou ceux qui sont confinés ensemble. Et c'est de dire à l'autre qui est en train de mourir, de lui dire, mais de lui faire dire, peut-être encore une fois par quelqu'un qui est un médiatiseur, de lui faire dire, écoute, ta fille Eugénie, là, elle te berce. Mmh. Et donc, c'est la parole qui prend le relais à quelque chose qui est impossible. Mais c'est comme n'importe quel mur, il y a des fissures. Et donc, c'est d'investir ces petites fissures pour faire en sorte que le peu qu'on peut y trouver, ben on le trouve. Mais je pense que, et c'est ça, le rôle qu'on peut donner aux intervenants, c'est un rôle déjà très ardu. Mais pour parler avec des gens qui sont actuellement au chevet des malades, pas nécessairement des mourants sous respirateur, mais ce qui est très intéressant, c'est que qu'on leur confie cette petite mission-là, ben ça ferait en sorte que ça allège déjà et ça humanise leur travail qui est complètement obnubilé par les gestes techniques de prévention et de préservation. C'est terrible. Donc ça introduit une forme d'humanité. Et d'ailleurs, dans n'importe quelle circonstance, vous connaissez, vous avez quelqu'un que vous aimez qui est mort par accident, par exemple, puis qui est mort dans l'ambulance ou qui est mort à l'urgence. Vous êtes arrivé à l'urgence après, et puis ce que vous faites tout de suite après ou longtemps après, vous voulez retracer les gens qui ont été aux premières loges de cette agonie-là pour leur dire, pour leur demander, mais comment il était. Et donc, c'est là que la qualité du lien humain, qui est un lien qui est lié aux circonstances, qui est tout à fait fortuit dans ce cas-là, mais c'est là c'est sur ça qu'on peut s'accrocher. En relais et en essayant d'honorer justement ce lien-là qu'on avait avec la personne qui est plus là. Donc, d'accord. Je pense qu'on est capable de réparer.
Pour les personnes qui restent, est-ce qu'on devrait attendre la fin de la COVID-19 pour commencer notre deuil ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire tout de suite? Parce que dans 2 mois, dans 3 mois, mes souvenirs seront pas aussi vifs que les souvenirs que j'avais sur le coup.
Tout à fait. En fait, il y a dans votre question, Génie, il y a 2 choses. D'abord, le deuil, il se fait par lui-même, quoi qu'on fasse. Hein? Il y a le process. Qu'est-ce que c'est que le deuil? C'est de développer une capacité à renoncer à la présence active et concrète de l'autre. Hein, c'est ça. Donc, le principe de réalité finit dans le quotidien par faire son chemin. Là où on peut faire des choses, c'est là que qu'entrent en jeu les fonctions importantes du rituel, qu'il soit groupal ou qu'il soit un petit micro-rituel entre nous ou privé. Mais je vous dirais, puisqu'on ne peut pas avoir un rituel collectif, ce qu'on appelle des funérailles sur le coup, moi, je suggère qu'on fasse les choses en trois moments. Le premier moment, c'est que les gens très, très proches se récoltent quelque chose qui renvoie à l'émotion première, à l'émotion brute de la mort de cette personne-là. Par exemple, si on a pu, et souvent il faut insister, si on a pu voir la dépouille de l'autre, même dans un sac de plastique, je sais que c'est horrible, mais si on a pu la voir, et puis si on a pu travailler avec une forme de symbole qu'on apporte qui est un peu le comment dire, l'ersatz ou le représentant de notre présence. Je sais pas, moi, t'apportes une écharpe qui est l'écharpe de l'autre, ou t'apportes quelque chose qui adoucit, t'apportes une fleur. Bon, bref, tu fais ce geste-là et tu le prends en photo. Il ne s'agit pas de prendre le mort en photo, peut-être pas nécessairement, mais il y a un geste. L'idée, c'est que le rituel, c'est que c'est d'abord et avant tout, c'est un ensemble de gestes symboliques, mais qui nous fait sortir un peu de notre impuissance. Et là, puisqu'on est dans l'impuissance au cube, ben, dans un premier moment, on enregistre ces signes-là. C'est très important, on les enregistre. On peut être tout seul, on peut demander à 2-3 personnes autour aussi de faire la même chose. Et ça forme un bouquet qui sera un jour peut-être pas très longtemps après, mais l'occasion d'un moment, un deuxième moment qui pourrait être comme des mini-funérailles. En fait, c'est l'idée d'introduire une rythmie, une scansion dans le temps, qui serait comme donc un deuxième temps où on pourrait faire quelque chose par Skype ou par Zoom, en fait, une série de personnes qui sont dans le virtuel. On accuse le coup ensemble. Les gens apportent ou peuvent donner aussi des symboles de ce que cette personne-là a pu être, sans faire des longs panégyriques à n'en plus finir, mais qui est un moment d'inscription dans la réalité de ce sentiment-là, mais un sentiment qui est partagé, qui est vécu simultanément. Et à ce moment-là, on ramène les prises, je dirais, les photos ou les objets qu'on avait apportés. Parce que c'est le problème, à mon sens, dans beaucoup de rituels, et pas juste dans ces circonstances-là, c'est que les rites de mort oublient souvent le mort. C'est-à-dire que il y a une urne, mais ça ressemble à rien. Donc, ce qui est important, c'est d'introduire quelque chose qui rappelle le mort de son vivant. Et on le voyait dans les funérailles au 18e siècle avec les trucs d'apparat d'un soldat ou d'un machin, mais il s'agit pas de ça, il s'agit d'un objet, même un objet usuel qui est investi par cette personne-là avant de mourir. Ça peut être le livre qu'elle lisait, ou je sais pas, ça peut être mais qui symbolise l'état dans lequel cette personne-là, au moment où elle a été saisie par la maladie. Et ça, ça nous parle d'elle, et ça nous ramène aussi de façon assez étonnante la valeur, la force des symboles qu'on a tendance à perdre. Puis qu'on a tendance à perdre parce que dans les funérailles, de façon habituelle depuis 50, 60 ans, on est dans beaucoup, beaucoup dans la jasette, l'hommage et tout. Et donc, la vertu importante d'un geste, c'est à la fois quelque chose qui nous relie à l'autre, mais qui parle pour nous autres. On peut parler, mais ça parle pour nous autres. Et surtout, ça parle de cette personne-là qui n'est plus là. Parce qu'on peut bien donner nos sentiments en regard de la personne, mais si on n'a rien qui la représente, elle, à la fois de son vivant et à la fois morte. Et c'est pour ça que moi, je pense que ce serait important, même si ça peut paraître très dur, qu'on ait une photo de cette écharpe-là qui est mise sur le corps de l'autre. Même si on ne reconnaît pas le corps, ça n'a pas d'importance, ça peut être une main, ou même une main, ça pourrait être bien parce qu'on pourrait la reconnaître, mais quelque chose qui représente à la fois l'autre mort, mais également l'autre avant de mourir. C'est sûr que ça arrache le cœur, mais ça arrache le cœur d'une façon pas brutale, parce qu'on s'accompagne les uns les autres, mais il n'y a rien de mieux par rapport au deuil que de s'ancrer dans une réalité concrète, même si c'est dur. Okay. Et c'est justement ça qui a été notre problème sociologiquement depuis plusieurs dizaines d'années, c'est que par principe, on voulait tellement être dans le plaisir, puis c'était presque des funérailles, girls want to have fun, parce que c'était désagréable, on a évité la vue du corps, même si ça a rien à voir avec un corps comme c'était après la guerre ou autour des années 50, même à partir du moment où la thanatopraxie est entrée en scène. Donc, cette réalité-là du corps de l'autre, d'ailleurs, c'est ça qui est, on comprend très bien que maintenant ce soit difficile parce que ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on est devant la réalité du corps de l'autre, de la représentation de la mort concrète, c'est dur, c'est un sacré butoir, mais c'est ce qui permet au groupe de se refaire. Et le groupe, il va se refaire d'abord en se serrant dans les bras. Ça va d'abord être quelque chose d'affectif. Donc,
si une acceptation de la réalité aussi, quand on voit l'autre,
tout à fait,
ça devient réel, c'est pas juste hypothétique.
Mais c'est-à-dire qu'on accepte justement la réalité empirique. Accepter la réalité psychique et relationnel, c'est une autre affaire. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus long. Puis, je me dis toujours, à partir du moment où vous avez l'acceptation comme but, c'est là que ça va pas. Parce que l'acceptation, c'est pas un but, c'est comment on traduit l'absence de l'autre dans quelque chose d'autre qui est une autre forme de présence. Parce que c'est ça, le mort. C'est ça, le deuil. C'est de trouver une place au mort, une place d'abord physique, dans un lieu qui renvoie éventuellement à une société des morts. Je pense que ça demeure très important. Un lieu qui soit une place collective, où les morts sont rassemblés et où il nous signifie non seulement un tel est mort, mais c'est votre destin, mes amis, c'est ça. Mais également, à partir du moment où ça s'est fait et s'est fait en sécurité, on est rassuré. Et d'une certaine façon, la réassurance du sort de l'autre dans sa matérialité contribue à ce qu'on entre dans un, ou qu'on amplifie, si on veut, un processus de mise à distance plus psychiquement porteur. C'est très curieux d'ailleurs que le fameux mot distanciation, moi je ris beaucoup, ben je ris pas, mais comme anthropologue, notre travail c'est de autant de s'immerser dans des situations et dans des terrains, autant c'est de se distancier, c'est-à-dire de garder l'œil sur notre objet, mais être capable de se distancier, non pas de l'objet, mais de nos émotions en regard de cet objet-là. Donc, c'est un processus qu'on connaît très bien. Mais le deuil, c'est aussi un processus de distanciation, c'est-à-dire qu'il faut se distancier tranquillement. Ben, pas il faut, mais on y arrive à se distancier de la peine à l'état brut, qui était la peine initiale, qui est liée au choc de la mort et au fait qu'on est complètement désorganisé et que l'autre nous manque cruellement. Se distancier de cette peine-là, ça veut dire aussi que l'autre nous manque, oui, mais le manque est un peu plus doux. C'est pas un manque qui est à l'arraché, qui est... Bon, donc c'est ça. Et là, actuellement, on est dans une requête ou une prescription de distanciation au quotidien qui est absolument contre nature, vous l'avez souligné. Alors, quand les deux chocs, quand on est déjà obligé de se distancier physiquement à cause de la crise du COVID et que notre personne aimée s'en va, c'est très difficile de se distancier. Il y a comme un contresens parce qu'on est déjà, à notre corps défendant dans la distanciation. Fait que c'est sûr D'accord. que le troisième temps du deuil des funérailles, parce que c'est ça que vous avez évoqué d'emblée, je reviens à un où les interdits de se toucher vont être levés. Ben là, il faut faire quelque chose qui soit avec les cendres dans ce cas-là, parce que c'est sûr qu'il va y avoir plus d'incinération, de crémation. C'est sûr qu'on peut pas donner à ce troisième moment-là le même sens que l'on pouvait donner quand on pouvait faire des funérailles une semaine, deux semaines, trois semaines après, mais un sens qui soit prenons acte de ce que fut notre émotion, on s'en souvient parce qu'on a les objets et les symboles pour nous les rappeler, mais retrouvons-nous pour honorer ce que cette personne-là a été, le legs et les legs avec lesquels on vit, nous, et on essaie de vivre, mais aussi, c'est extrêmement important parce que le temps des funérailles collectives ou ce qu'on a appelé dans toutes sortes de sociétés, et j'appelle encore le deuil social, c'est un moment important pour que le groupe social, la communauté, s'éduque à la réalité de la mort. S'il n'y a pas okay. ça, la mort elle continue d'être évitée amplement et en tout cas, bon, c'est toute une autre problématique, mais c'est très, très, très intéressant parce que donc, ce moment-là, pour le dire concrètement, je ne sais pas quand ça va pouvoir être, mais je pense qu'il faut le faire, même si ça, on n'est pas dans la tristesse à l'état vif. De toute façon, on s'est bien rendu compte depuis une dizaine d'années que beaucoup de funérailles sont différées. Mais s'il y a eu un premier moment où il y a eu une prise en acte de cette réalité-là de l'absence, qui est complètement inique et bouleversante, ben, s'il y a eu ce moment-là, déjà, on a des lieux, en palier, pour déposer le signe que cette mort-là a fait son a commencé son chemin et continue de le faire. Si on ne fait pas allusion à comment ça a commencé, comment ça s'est produit, c'est sûr qu'on ne s'aide pas. Donc, il faut faire les gestes privés et intimes en sachant qu'un jour, certains de ces gestes-là vont être répercutés dans une cérémonie qui serait une cérémonie un peu plus collective et un peu plus, distancié dans le temps, mais aussi dans l'émotion vive pour regarder, voilà, la mort, ben c'est ça la mort. Donc, profiter, ben je dis profiter, c'est une occasion parce que dans les funérailles telles qu'on les observe depuis plusieurs années, on dit plus le mot mort, on n'a plus de mort, on n'a plus de signe du mort. Il n'y a pas grande différence entre les funérailles et les anniversaires, des dizaines d'années où tout le monde se réunit. Il n'y a pas beaucoup de... On fait comme des genres bien cuits. On fait quoi? Bon, alors, donc, c'est peut-être un moment où c'est très curieux parce que sociologiquement, c'est par le défaut de funérailles qu'on se rend compte de l'importance d'en faire.
D'accord. Vous avez écrit aussi que le deuil nous change.
Oui.
J'entends tout ce que vous dites. Et c'est évident que le deuil fait de nous des personnes différentes. On n'est pas pareil avant qu'après. Pourquoi est-ce que ce deuil fait de nous justement des personnes différentes?
Parce que c'est comme une loi de l'humanité, de chaînon multimillénaire, multigénérationnel en chaînon multi. C'est que on a à composer avec le legs de cette personne-là, qui n'est pas un legs nécessairement tangible, mais avec ce que cette personne-là nous a appris, ce que cette relation-là nous a permis de développer. Et d'ailleurs, c'est ça qui constitue le grand déchirement dans la perte de l'autre. C'est que on veut garder l'autre. On est attaché à ce qu'on faisait ensemble, à ce qu'on a vécu ensemble, etc. Puis là, il faut qu'on se détache. Mais se détacher, ça ne veut pas nécessairement dire ne plus aimer. On le vit pour nos enfants, on le vit. C'est deux choses très différentes. Aimer, c'est continuer à considérer l'autre pour ce qu'il est et aimer l'autre, c'est aussi accepter que la relation évolue avec le temps. Alors, quand quelqu'un qu'on a aimé, auquel on était attaché, meurt, il faut se détacher, mais ça ne veut pas dire qu'on l'aime plus. Ça veut dire aussi qu'on continue à que cette relation-là continue d'évoluer parce qu'il y a des choses que l'autre nous a appris qu'on se dit, mais mon Dieu, c'est donc bien vrai. Et en même temps, par mimétisme inconscient, ce qu'on réalise aussi, c'est qu'on adopte, et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on change, une des raisons qui nous fait dire qu'on change, c'est qu'on adopte des comportements, des réflexes, des gestes, un type d'humour, je sais pas, qui était le propre de l'autre. Mais on s'en rend pas compte. Et là, les gens nous disent, mais coudonc, quoi, t'as tel ou tel. Des fois, c'est pas deux mois après, c'est deux ans après. Donc, on change. Et si il y a une période qui est extrêmement douloureuse au début, puis il y a une période après ça où on se dit, mais est-ce que c'est bien ça, se détacher? Puis on n'aime pas ça, avoir à se détacher. Évidemment, on a peur d'oublier, mais on dit toujours, non, vous oublierez pas, vous métabolisez la présence de l'autre autrement. C'est tout à fait autre chose.
Non, j'allais dire qu'il y a une certaine forme d'affranchissement aussi dans le deuil. Moi, c'est un peu mon expérience. Ce que je vis présentement, c'est que on s'affranchit de l'identité que l'autre nous avait donnée par défaut de son influence. Donc, on sort du moule. Dans le cas d'un père, tu sais, c'est quand même un rôle important, un rôle majeur. Donc, je ne suis plus que la fille d'eux. Je m'affranchis de cette boîte-là d'une certaine façon.
Tout à fait. Mais c'est pas parce qu'on s'affranchit qu'on renie. Hein? On franchit dans le sens qu'on gagne, on perd une référence explicite ou parfois d'ailleurs un rôle qui peut sembler par certains aspects pesant. Parce que c'est aussi ça, une chose qui, à mon sens, est un peu mise de côté dans le deuil, c'est que on oublie, et ça, les psychiatres et les psychanalystes nous l'ont très bien appris, comment toute relation a une part d'ambivalence plus ou moins forte. Et donc, c'est ce qui fait que dans le deuil, on peut très bien ressentir un sentiment de soulagement. Soulagement à l'égard de la personne qui est décédée parce qu'elle souffre moins pour elle, mais aussi par rapport à des exigences que cette relation-là nous imposait parfois en fin de vie. Et c'est pas parce qu'on se sent soulagé, parce que là, moi, je sais que beaucoup de gens et moi-même, ayant perdu des proches en janvier, une proche particulièrement proche, je me suis surprise à dire, mon Dieu, une chance qu'elle est décédée en janvier. Parce que là, ça aurait été, ben, bon, elle est pas nécessairement morte dans des bonnes conditions non plus, mais au moins elle est morte avec sa petite fille à côté d'elle. Donc, c'est pour dire que la qualité comme telle de présence au moment de la mort est importante, mais en même temps, on a tendance à la romantiser parce que il y a ces sentiments-là qui sont des sentiments qui sont ambivalents, et puis c'est pas plus mal. Alors, on peut se sentir d'une certaine façon dégagé de cette responsabilité-là qu'on avait par la mort de quelqu'un. Mais ça, c'est toute une question de degré aussi. Parce que ce qu'on apprend aussi, c'est que toute notre vie, et la question, elle se pose actuellement autant au plan individuel qu'au plan collectif, c'est que toute notre vie, on est tiraillé entre l'injonction à profiter, à s'amuser, mur à mur, le plaisir mur à mur, et la responsabilité qu'on a envers les uns envers les autres. Donc, on a à résister à une tentation de juste être dans le fun. Puis c'est sûr que s'occuper de quelqu'un qui est malade, il y a des joies extraordinaires, mais pas toujours nécessairement. Hein. Donc, cette tendance-là qu'on a à mettre ce qui nous déplaît systématiquement de côté, ça rebondit forcément autour de la mort. Et ce qui s'ajoute d'ailleurs dans le fait que on a négligé les personnes âgées en institution, qu'on souhaite une mort la plus rapide possible quand on sait qu'on est atteint d'une maladie grave. Donc, il y a comme une volonté d'appuyer sur le temps pour qu'il aille un peu plus vite. Parce que ce temps-là, quand il est long, ça enfreint et ça contraint notre bon plaisir, on va le dire comme ça. Ben moi, je pense qu'il faut se le dire. Faut pas plus s'énerver avec ça. Je sais qu'à un moment donné, moi, j'ai des gens dans mon entourage qui m'ont dit, parce que j'étais dans une période où je m'occupais énormément. Là, c'est la première année depuis peut-être 15 ans où depuis janvier, j'ai pas de très, très, très proches plus âgés que moi desquels m'occuper. Mais des fois, il y a, par exemple, un très, très bon ami me disait, mais là, je t'emmerde, ben, pas je t'emmerde, mais je te prends du temps, puis ça te dérange, puis ça, puis bon. Puis je disais, mais oui! Et puis, après tout, ça me regarde, ça te regarde pas que ça me dérange. Et donc, je lui disais, c'est vrai que ça me dérange parce que pendant que je viens te voir, je vais pas au cinéma. Mais toi, t'es mon film préféré. Alors, bon, on y est comme ça, mais il y a moins. Tu sais, je veux dire, tu choisis pas ce qui t'arrive au plan de tes relations quand il y a eu de l'attachement, mais c'est pas parce que tu l'as pas choisi que c'est pas quelque chose que tu peux rendre un peu plus sain et proche d'une certaine vérité qui est la vérité de la relation. Et donc, c'est ça. Donc, je pense que ce qu'on est en train d'apprendre à travers la contrainte comme société, c'est comment, pour nous, comme culture, on a été nourri au petit lait de l'illimité, l'absence de limite. Sky is the limit. C'est ça qu'on a appris. Ce qui fait que toute réglementation, toute limitation est vécue comme quelque chose d'extrêmement frustrant, alors que ça nous construit aussi. Je dis pas tout ça.
D'ailleurs, c'est par là que je m'en allais aussi. On a parlé du deuil individuel, oui. Mais comme société, comme collectivité, comme vous l'avez dit, on est mis de plus en plus face à nos limites. On a perdu beaucoup de nos libertés de se déplacer. Oui. On va avoir à faire des deuils collectifs aussi, j'imagine. Par où on va commencer?
Ben, pour faire le deuil, il faut se rendre compte dans quoi on était. Hein? On était, c'est sûr que si tu n'essaies pas de regarder dans quoi tu étais, puis qui était délétère, qui était mortifère, par exemple, des conduites de saccage de la planète, ça commence à être un peu plus présent maintenant que ça l'était même il y a 3 mois. Tu dis, mais à quel prix ça l'est? Mais bon, déjà, on sent qu'il y a ça. De se rendre compte qu'on avait des modes de fonctionnement délétères dans notre façon de consommer, d'accumuler toujours plus. L'accumulation, c'est extraordinaire. Dans notre façon d'aller toujours plus vite, cette espèce de frénésie constante où il faut être constamment dans la nouveauté, l'originalité, etc. Je pense qu'on est en train de se rendre compte de ça par une chose très simple, c'est qu'on est obligé d'entrer dans un rapport, à cause du confinement, d'entrer dans un rapport au temps qui est un rapport au temps à la fois très fermé et très ouvert. Parce que ça nous permet d'arrêter de réfléchir.
Luce, vous avez parlé d'arrêter et de réfléchir, mais pour beaucoup de monde, d'arrêter et réfléchir, ça peut être un peu anxiogène, non?
Oui, c'est très juste. Mais en fait, d'abord, il y a une chose qui... Réfléchir, ça ne veut pas dire se prendre la tête comme ça. Hein? Ça veut dire juste se questionner comme tel. Mais c'est sûr que c'est anxiogène à partir du moment où tu te rends compte que les conduites dans lesquelles tu étais étaient des conduites d'évitement. Autrement dit, je reviens à notre rapport à la mort, ces conduites d'évitement-là, dont on a parlé, vitesse,
consommation,
tout là, c'est des conduites à l'intérieur de notre existence qui sont extrêmement révélatrices de notre rapport à la mort. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de compenser, combler le vertige qu'on peut avoir, que tout le monde a, fondamentalement, ontologiquement, d'être des êtres mortels. Mais alors, le fait qu'on évite, ça fait en sorte que la peur qu'on a, qui est tout à fait légitime, avec laquelle on pourrait composer, puis on pourra parler des manières de composer avec elle, mais une manière extrêmement malsaine de composer avec la peur, c'est justement d'éviter par tous ces moyens-là. Donc, si on arrête puis on se rend compte que nos moyens étaient délétères, c'est sûr que c'est anxiogène, sauf que de continuer dans cette spirale-là du toujours plus la même chose, c'était encore terriblement angoissant et ça fait en sorte que beaucoup de gens, justement, ne voulaient pas voir les signes d'une avancée vers la mort qui est un signe qui fait partie de l'arc de l'existence, c'est-à-dire on grandit, on se développe, on accroît ses capacités, on peut les accroître jusqu'à la fin, mais il y a quand même un déclin, hein. Faut arrêter de penser que je vais mourir debout et en joguant là à 99 ans, là. C'est pas ça là. C'est pas la décrépitude totale non plus, mais c'est quand même une décélération de l'ensemble des fonctions. Donc tout ce qui symbolisait la décélération de l'ensemble des fonctions, bien sûr, de façon épouvantable au plan cognitif, on pourra en reparler, mais ça a été tassé, ça a été mis de côté, comme si ça n'existait pas, donc dans une sorte de déni collectif. Et là, ça nous tombe dessus comme un gros pan de porte. Boum! On se rend compte que c'est ça. Est-ce que c'est ça qu'on voulait? Est-ce que bon? Donc, mais en même temps, il faut faire très attention parce que la façon dont ça nous est reflété souvent par les médias, c'est tellement catastrophiste qu'on a raison de s'enfuir et d'encore plus éviter. Hein? Mais nonobstant la question du sort des personnes âgées et des mourants, ce que la crise actuelle nous apporte, c'est de nouvelles solidarités aussi, de nouvelles façons de communiquer qu'on avait, mais qu'on amplifiait et qui stimulent une créativité autant dans le quotidien que dans l'usage des richesses naturelles et autres. Alors ça, je pense que ça rejoint une des façons de se défendre contre l'angoisse, elle-même qui est née d'une peur qui est non affrontée. Mais alors, se défendre contre l'angoisse, contre les effets de la mort sur nous, c'est de créer, c'est de créer, mais créer, ça veut pas dire juste mettre des arcs-en-ciel devant nos fenêtres en disant « ça va bien aller ».
Ça va bien aller.
C'est créer des structures, c'est ce qu'ont fait les êtres humains depuis le début de l'humanité, c'est-à-dire créer, bien sûr, des arts, créer des organisations par des regroupements, créer des techniques, créer l'ensemble des pratiques et des modes de vie. Donc, on est tous pris avec la finitude. Donc, tu dis, ou bien je fuis, puis peut-être que j'accélère le moment parce que j'ai des conduites qui sont pas nécessairement de santé, en compensant, etc. Ou bien j'essaie de réparer la part que ça me fait en créant le plus possible. Et ça fait en sorte que d'ailleurs, quand les gens ont fait ça tout le temps de leur vie, quand ils meurent, ben ils se disent, ben peut-être pas j'ai une vie remplie, mais j'ai fait 2-3 affaires que j'avais envie de faire, c'est tout. Alors quelqu'un qui meurt en étant sur la go, go, go tout le temps, Je suis pas sûre qu'il meurt heureux. Ben, heureux, on meurt pas nécessairement heureux, mais qu'il meurt d'une certaine façon avec une forme de sérénité qui vient bien sûr des conditions dans lesquelles on meurt, des conditions relationnelles, mais qui vient aussi de se dire, ben écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, puis j'ai eu des moments formidables et je me suis ouvert, etc. Ce genre de trucs qu'on retrouve souvent chez les gens qui meurent, mais pas nécessairement sous forme de grands messages du mourant. C'est souvent juste une petite phrase pouf, qui est lancée comme ça et qui fait que des gens, mais ça, tu retrouves ça chez des gens qui ont eu une attitude devant la vie où peut-être qu'ils ont été dans la trépidance, mais à un moment donné, ils se sont arrêtés. Ils ont été obligés d'arrêter par toutes sortes d'accidents, de circonstances personnelles. Puis là, ils se disent, mais j'ai découvert ça. Et c'est pas nécessairement lié à l'âme.
Ça fait depuis le mois de janvier que le coronavirus est dans notre portrait médiatique. Au début, c'était en Chine. Ça nous a frappé de plein fouet, nous, Québécois, Canadiens, à la mi-mars. C'est pas la même chose de le voir en Chine et de le vivre à tous les jours. Après 6 semaines de confinement où on entend parler de mort à tous les jours, on a nos premiers ministres qui viennent nous faire les bilans. Pensez-vous, ce que vous observez après 6 semaines, c'est peut-être un peu tôt pour en tirer des conclusions. Pensez-vous qu'on pense plus à la mort, qu'on y réfléchit plus, qu'on lui fait une place?
Je pense que c'est très clair qu'on y pense plus parce qu'elle est plus mise en scène, mais ce qui est mis en scène, c'est les records, entre guillemets, c'est comme la vision qu'on a de la mort, c'est une vision qui était beaucoup sur le mode du même qu'on avait depuis des années, qui était sur le mode du spectaculaire. Là, le spectaculaire, il arrive de façon absolument insidieuse et massive par un virus, mais c'était beaucoup la mort spectacle dans l'éclatement, l'explosion. D'ailleurs, on va entendre les chiffres explosent. Bon, il y a ces figures-là. Je pense qu'il y a une grande partie des médias qui est axée autant vers les données brutes, hein, c'est comme tel, mais aussi qui est axée en même temps par une forme de spectaculaire. C'est dans le ton, c'est dans, bon. Mais, donc, c'est là le jeu extrêmement délicat, autant pour les médias d'ailleurs, qui c'est quand même le quatrième pouvoir, comme on disait, mais oui. Autant par les médias que par le politique, parce que le politique, dans le fond, il y a à la fois la responsabilité organisationnelle, d'orientation politique, etc., mais en même temps, c'est très délicat parce que s'il veut, on en a traité dans beaucoup de médias justement de cette question-là, mais s'il est pris dans un truc délicat parce qu'il faut qu'il fasse peur d'une certaine façon pour que les gens optent en peur. Mais s'il fait trop peur, c'est pas mieux, les gens vont se révolter ou les gens vont se ratatiner sur eux-mêmes puis ça va amplifier une série de pathologies qui étaient préalables. Donc, c'est de dire jusqu'où, qu'est-ce qu'on risque, jusqu'où on va. Et ça, c'est sûr que c'est un sacré brasse-camarade parce que c'est un indicateur de nos valeurs collectives et de nos définitions de la santé globale.
Dans un très beau texte que vous avez récemment publié, vous dites que cette catastrophe est féconde et qu'elle pourrait nous amener à mieux prendre soin du vivant. Moi, quand j'ai lu ça, là, ça me fait « wow ». Est-ce que vraiment on va saisir cette opportunité pour mieux prendre soin?
Je ne sais pas si on veut.
Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas?
Parce que ça demande énormément d'efforts. Parce que ça demande de déroger à nos habitudes très confortables. Une habitude, par définition, c'est confortable, OK?
Oui.
Puis, on a l'habitude du confort. Donc, ça fait comme deux paliers d'habitudes qu'il faut faire voler en éclats. Je pense qu'on est capable. Bon, on a peut-être commencé ça dans le confinement et tout. Mais là où ça va jouer, puis c'est pour ça que c'est un travail délicat au plan politique, parce que ça va jouer parce que jusqu'à quel point il y a une telle frustration que quand on va lâcher les petits veaux dans le pré, oui, les petits veaux vont être tout partout et puis vont vouloir compenser pour une frustration qu'ils auraient vécue, et puis qu'on tout le monde a plus ou moins vécu. Puis il y a des gens qui l'ont plus vécu que d'autres, parce que si vous êtes 5 personnes dans un 3,5, on comprend que la frustration, elle est pire que si vous êtes 2 dans un 5,5, exemple. Donc, tout ça pour dire que ça dépend beaucoup des conditions que les uns, puis les habitudes que les uns et les autres ont eues, les habitudes de consommation, les habitudes de compensation par la consommation, par la distraction, on connaît un tas de gens qui ont toujours besoin d'un truc extérieur pour les faire vivre. Ils tiennent pas en place, il faut toujours qu'ils sortent, qu'ils aillent à gauche, qu'ils aillent à droite, qu'ils fassent je sais pas combien de voyages par année, qu'ils soient constamment sollicités de l'extérieur. Ces gens-là trouvent ça très, très dur, le confinement. Donc, peut-être qu'ils vont sortir, certains d'entre eux vont avoir appris, d'autres vont avoir, tiré l'élastique au maximum, et quand là, l'élastique va se relâcher, ils risquent d'avoir une conduite de consommation encore plus débridée. Donc, on risque d'être dans le toujours plus la même chose. Et ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait toutes ces tendances-là qui soient...
Donc, ce serait dommage de traverser tout ça pour se ramasser à la case départ.
Ça serait tout ça pour ça, comme on dit, hein? Ça serait. Moi, je pense pas, mais je pense que les systèmes de place vont être mieux définis. Les positions des uns et des autres vont être mieux définies parce que c'est un giga révélateur. C'est un révélateur au plan collectif.
C'est comme une grosse loupe qui est sur nous en permanence.
Exactement. Puis on le voit parce qu'on le voit par rapport aux différences entre les modes de gestion, entre guillemets, de cette crise-là à travers les différents pays. Mais on le voit aussi à travers, c'est ça ce qu'on appelle les mentalités collectives, hein, l'esprit du peuple. Et finalement, on le voit aussi par rapport à ces conduites individuelles. Et je pense que l'enjeu, ça va être de se dire, qu'est-ce que ça nous révèle, jusqu'où on était dans l'évitement et comment on essaie de pas reproduire le même, d'abord, l'évitement. On comprend très bien qu'on veut éviter séquentiellement la mort. qu'on veut s'éclater, s'amuser, rigoler, ça c'est évident, on peut pas vivre dans la conscience de la mort à cœur de jour, c'est impossible. T'sais, l'image du pseudo-sage qui est devant le squelette ou la tête de mort, non, on peut pas vivre dans la conscience continue de la mort. Mais si cette conscience-là agit sur deux plans, c'est-à-dire elle agit à la fois en termes de nos us et coutumes quotidiens et collectifs, puis si elle agit au moment où la mort arrive, à la fois où elle se profile par rapport à la maladie grave, où elle se profile dans l'advenue de la mort comme telle, et qu'est-ce qu'on fait non seulement du rite funéraire, mais qu'est-ce qu'on fait du souvenir, qu'est-ce qu'on fait de ce que nous lèguent les uns les autres. Ben ça, c'est autre chose. Mais je pense pas qu'il y ait une révolution collective qui soit unanime. Ça, je serais extrêmement étonnée. C'est un révélateur des forces qu'il y a dans la société, certaines étaient très discrètes. Et là, certains se rendent compte qu'après tout, ils avaient l'impression de crier dans le désert, mais ils crient plus dans le désert. Je pense à certains paris écologistes. Ça réactive quelque chose qui était, jusqu'où, je sais pas. Je voudrais pas avoir une boule de cristal. Mais en tout cas, pour moi, c'est un sacré laboratoire. Pour moi, comme anthropologue, mais je pense que la société, à l'endroit d'elle-même, elle est dans un sacré laboratoire parce que tout le monde, beaucoup de monde, regarde aller les choses puis se disent, oui, de quoi je me saisis pour ça? Il y a des gens qui vont se saisir de ça pour faire encore plus de fric. Ça, c'est clair. C'est déjà très bien parti. Mais il y en a qui s'en saisissent pour dire, de façon peut-être moins opportuniste, mais de façon, comme on dit, occasionnaliste, c'est-à-dire on s'est saisi le jour, hein, c'est carpe diem. Comment je fais de cette situation-là, qui est pas nécessairement agréable et qui peut être par certains aspects très souffrante, comment je fais quelque chose de moins pire? Et c'est ça, moi je pense que c'est sans la poser d'une façon philosophique, intuitivement, beaucoup de nos collatéraux la posent comme ça. Beaucoup. Moi, j'ai des voisins qui se posent ces questions-là puis qui agissent en conséquence.
Merci, Luce, pour ces belles réflexions.